10 ans après le Brexit, où en sont nos ennemis préférés, les Britanniques? Est-ce qu'on peut parler de regret? Est-ce qu'ils regrettent leur choix? Est-ce qu'on se dirige vers un return, vers un retour du Royaume-Uni dans l'Union européenne? Et nous, les Européens, qu'est-ce qu'on en pense?
En attendant, les Britanniques sont toujours en proie à l'instabilité politique. Keir Starmer est tombé, Andy Burnham est en passe de devenir le futur locataire du 10 Downing Street. Je vais vous raconter quelques épisodes de sa vie qui en disent long sur sa personnalité.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti. Salut Annalisa.
Salut Mathieu, tu vas bien?
Ça va bien et toi?
J'adore ce sujet.
Ma chemise.
Brexit.
Ah, pardon. Le...
Aussi, mais aussi ce sujet Brexit.
Ouais, je sais. Ça fait plusieurs semaines que tu veux en parler. Ça tombe bien, c'était les 10 ans jour pour jour, mardi dernier, que les Britanniques ont dit non à l'Union européenne, une sortie peut-être la plus spectaculaire de l'histoire contemporaine de l'Europe, l'occasion de faire un retour, de tirer les grandes leçons de ce Brexit. Toi, ce qui t'intéresse, Annalisa, déjà, c'est le bilan économique 10 ans plus tard. Où est-ce qu'on en est?
Alors, il y a un constat qui est très clair, c'est que ce bilan économique 10 ans après est négatif pour le Royaume-Uni. Donc il ne s'agit pas de dire que politiquement c'était une erreur, de condamner ceux qui ont voté pour le Brexit. C'est pas du tout ça, c'est de faire le constat que tous les économistes aujourd'hui s'accordent pour dire que le bilan du Brexit est négatif. Il y a des estimations, c'est évidemment difficile à estimer précisément, mais on parle d'estimations qui vont de 2% à 8% du PIB perdu.
Boom.
Pour les Britanniques. Tu vois, c'est une fourchette là,
ouais.
Mais on est quand même que sur des pertes. Et puis surtout, les promesses du Brexit n'ont pas vraiment été tenues. Tu te rappelles, les partisans du Brexit promettaient une amélioration des services de santé. Alors, ça n'a pas du tout été le cas.
Le NHS.
Le National Health Service. Alors, ce n'est pas fait du tout. D'ailleurs, en lisant la presse britannique, souvent, on a des scandales liés au système de santé. On promettait beaucoup une réduction de l'immigration ou du moins un contrôle accru sur l'immigration pour le Royaume-Uni.
Là, c'est même l'inverse qui s'est passé.
Exactement. Il y a même plus de migrants qui arrivent, au moins le double selon les années. Et les Britanniques voulaient davantage de liberté dans leurs accords commerciaux. C'est vrai, ils ont passé des accords commerciaux avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Inde, avec le Japon. Oui, mais ça reste des montants vraiment très petit par rapport au montant des échanges avec l'Union européenne.
Ça montre bien que géographiquement, on parle d'une île qui est quand même collée à un bloc commercial de 450 millions de consommateurs.
Et ça, il y a une réalité géographique.
Il y a une réalité géographique et ils en voient aujourd'hui les conséquences. Dans le narratif européen, on a tendance à dire, et tu nous le rappelles aussi régulièrement, que les Britanniques regrettent le Brexit. Est-ce que ça, c'est vrai ou est-ce que ça fait partie d'un narratif qu'on entretient?
Écoute, oui, c'est vrai. C'est ce que disent tous les sondages que j'ai lus dernièrement. Ils sont tous d'accord. Les pourcentages changent un peu, mais ils sont tous d'accord pour dire, et là, je vais te faire rire parce que en lisant la presse britannique, je suis tombée sur plein de petits nouveaux mots inventés pour définir ce sentiment. Alors, on parle de regret, donc les Britanniques qui regrettent,
c'est joli, ça.
d'avoir quitté l'Union européenne. Ouais. Donc, ils envisagent un return, donc revenir dans l'Union européenne. Et donc, ça serait une Brunion.
Donc, une réunion. C'est brilliant. Oh, pas mal.
C'est pas mal. Mais voilà, donc écoute, il y a beaucoup de sondages, mais je t'en cite un de YouGov qui nous dit que 57% des Britanniques estiment aujourd'hui que le Brexit était une mauvaise décision, sondage qui est sorti il y a quelques jours, donc c'est vraiment un des sondages les plus récents, en sachant qu'à l'époque, le vote avait été vraiment très serré. Il y avait 51,9%, donc en gros 52% des Britanniques qui avaient voté pour le Brexit. Donc déjà, tu vois, oui, c'est vrai que la marge n'est pas très importante, mais elle n'était pas importante non plus à l'époque. Et surtout, il y a un élément qui est très intéressant, c'est que ce sont surtout les jeunes qui regrette. Il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière par l'institution More in Common qui a été publié dans le Guardian, un journal britannique, et qui nous dit en fait que ceux qui regrettent le plus le Brexit, bah, ce sont les jeunes qui n'ont pas voté.
Qui n'avaient pas voté à l'époque, c'est ça.
Et la Gen Z, donc en gros les 18-28 ans, et ils n'ont pas voté il y a 10 ans, à la limite ceux qui ont 28 ans, qui ont voté pile poil à leurs 18 ans. Mais sinon, ce sont des gens qui n'ont pas voter. Et aujourd'hui, c'est toute une classe d'âge qui arrive donc à l'âge du vote. Bah, 10 ans après, le pays n'est plus le même, évidemment.
Et est-ce que ça change aussi pour ceux qui avaient voté à l'époque, qui aujourd'hui deviennent les aînés? Est-ce que eux aussi regrettent leur vote de l'époque, ou est-ce que...
Alors, sur ça, on n'a pas vraiment... On a le sondage global, non?
D'accord.
Qui dit que globalement, ils pensent désormais que c'était une mauvaise idée. C'est intéressant d'analyser des votes qui sont aussi partagés du point de vue des tranches démographiques, parce que je te le disais, aujourd'hui, évidemment, ce n'est plus le même pays qu'il y a 10 ans. Il y a un sondeur qui s'appelle Peter Kellner, qui est cité toujours par Le Guardian, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, et lui dit qu'en fait, le pays s'est totalement renouvelé, parce que ceux qui ont le plus voté pour le Brexit, ce sont les aînés, ceux qui avaient entre 80, 90 et plus. Et donc, évidemment et naturellement, une grosse partie de ces aînés, aujourd'hui, n'est plus là.
Ne peut plus voter.
Ne peut plus voter. Et donc, non seulement donc, toute cette tranche d'âge qui avait voté massivement pour le Brexit...
Beaucoup de votants sont décédés, des mineurs aujourd'hui peuvent voter, et eux sont plutôt pro-Europe. D'accord, donc on voit que...
Et donc, quand on demande aux jeunes britanniques, 61,9% dit, donc 2 sur 3, disent qu'il faudrait revoter, et 60% d'entre eux choisirait de rejoindre l'UE, avec une grosse partie qui ne sait pas, donc ça, c'est encore très divisé.
Et alors moi, là-dedans, comment est-ce que tu expliques, parce que tu nous en parles régulièrement, de la montée des populismes un peu partout en Europe, et en particulier en Grande-Bretagne, derrière Nigel Farage, comment tu expliques justement ce populisme qui a le vent en poupe là-bas, alors qu'en même temps, tu as une Gen Z qui est très pro-européenne et qui n'est pas vraiment dans le siège des populismes?
Et tu as raison, il y a un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, ils nous disent qu'ils regrettent le Brexit, et en même temps, Nigel Farage, qui est quand même anti-européen, c'est le visage de ce sentiment europhobe au Royaume-Uni, continue de faire des scores immenses. D'ailleurs, c'est un de ses bons scores aux élections locales du mois de mai, qui a contribué à la chute de Starmer. Tu vas parler de son successeur après. Et donc, cette question-là, comment expliquer ce paradoxe entre la bonne position de Farage et en même temps des Britanniques qui regrettent de plus en plus le Brexit? J'ai posé la question cette semaine à Elvire Fabry, qui est de l'Institut Jacques Delors. Elle était en matinale, donc on l'a interviewée avec Laure Clausier. Elle nous dit que la réponse, c'est l'immigration. Je te propose d'écouter ce qu'elle nous a dit.
Allez, on l'écoute.
La clé, elle se trouve du côté du dossier de l'immigration.
Ouais.
Parce que le vote du Brexit avait déjà été une réponse aux afflux de migrants qui étaient arrivés en 2015. Mais rappelons-le encore une fois, c'était des migrants hors Union européenne. Et ce qui est arrivé avec le Brexit, c'est qu'on a vu un départ des Européens, ceux qui devaient partir, qui n'avaient plus le statut pour pouvoir rester, ceux qui ne voulaient plus rester. Et en revanche, une immigration hors Union européenne qui a compensé ce départ européen avec d'abord beaucoup d'Indiens, Pakistanais, Nigérians, Chinois, Népalais. Et c'est le fonds de commerce de Nigel Farage.
Donc tu vois, c'est là qu'on se rend compte que probablement pour les Britanniques, le problème n'était pas l'immigration européenne, mais l'immigration extra-européenne, et qu'en fait le Brexit n'a pas arrêté l'immigration extra-européenne, au contraire, y a une augmentation de ce type d'immigration-là, et que c'est donc ce qui explique ce pays divisé entre l'envie de revenir dans l'UE avec tous les bénéfices, et en même temps, toujours cette envie de limiter l'immigration, d'avoir un contrôle sur l'immigration.
Et alors nous autres Européens, qu'est-ce qu'on en pense ?
Écoute, nous, la réalité, c'est ces 10 dernières années, en particulier depuis 2021, la réalité, c'est qu'on a avancé plus vite. Depuis qu'ils ne sont plus là, on a pu mettre en place le système d'emprunt commun, on a acheté les vaccins très rapidement ensemble à l'époque du Covid, on a fait des achats conjoints d'armes, on est allé plus vite dans la protection de l'Ukraine, oui, toujours.
On a toujours le coussin de l'euro, mais bon, ça, à la limite, on l'avait toujours, eux avaient toujours la livre, mais bon, ça reste quand même un coussin important.
C'est vrai que nous, on est malmenés par la conjoncture internationale, on se fait un peu victimiser par tout le monde, hein, par Donald Trump, on a vu par les Chinois cette semaine, donc effectivement, on ne se porte pas au mieux de notre forme, mais les Britanniques non plus, parce que les Britanniques, eux aussi, ont été beaucoup malmenés par la conjoncture internationale. En tout cas, la sensation, en lisant ce que disent tous les diplomates dans la presse cette semaine, c'est que nous, on n'est pas prêts à laisser revenir les Britanniques. Bon, déjà, il y a une question de fierté, c'est aussi ce que je lis à chaque fois que je traite ce sujet à l'antenne. Dans les commentaires, vous êtes très nombreux à écrire « on n'en veut pas, on n'en veut plus, ils ont choisi, maintenant ils n'ont qu'à y rester et qu'à se débrouiller tout seuls ». Et surtout, on ne veut pas les laisser revenir avec des conditions aussi favorable. Alors ça, c'est le consensus global, c'est ce qu'on sent un peu quand on prend la température. Sauf,
ouais.
Il y a une interview qui est sortie la semaine dernière dans la presse britannique. Bah, c'était encore le Guardian qui fait un formidable travail en ce moment sur cette couverture-là. Et donc, dans cet article qui était à la une du Guardian, on lisait que Britain could rejoin EU on special terms. Donc, oui, il n'y a pas vraiment de problème. Le Royaume-Uni pourrait rejoindre à nouveau l'Union européenne avec des conditions spéciales. Bon, cet avis n'a rien d'étonnant en soi. Ce qui est étonnant, c'est la personne qui l'a prononcé. Est-ce que tu as une idée? Alors, je ne l'ai pas écrit dans les notes, donc Mathieu ne sait pas, vraiment. Est-ce que tu as une idée en sachant que c'est quelqu'un qu'on connaît tous? Vous connaissez tous.
Qui a pu dire ça? Est-ce que c'est pas Andy Burnham?
Ah non.
Hein, parce que je vais t'en parler après. Andy Burnham, c'est celui qui risque d'arriver au 10 Downing Street, qui est assez pro-européen, mais qui en même temps marche sur des œufs avec le Britain, je le sais. Donc il aurait très bien pu prononcer cette phrase.
C'est vrai. Mais là, figure-toi que non.
Parce Tony Blair.
C'est un Européen qui dit ça. C'est un Européen qui dit pas de problème, vous pouvez revenir avec toutes les conditions avantageuses
Barnier.
Que vous aviez avant. Barnier.
Ah.
Michel Barnier. Notre Michel.
Je suis nul
Barnier
en quiz en plus. Mais...
Après s'être battu, bah bravo. Après s'être battu pour négocier le Brexit, pour essayer d'avoir les meilleures conditions pour l'Union européenne. Il y a travaillé pendant des années sur ce Brexit. Maintenant, il leur dit, si, il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir et vous aurez à nouveau toutes les conditions que vous aviez avant, quelque part...
Mais ça, c'est un mouvement qui est intéressant et qu'on suivra parce que justement, Andy Burnham, pendant sa campagne, on va en reparler, mais Andy Burnham, pendant sa campagne, a dit sur le Brexit, où il est resté extrêmement timide, a dit qu'il y avait peut-être certains dossiers sur lesquels on pourrait étudier des rapprochements. Mais il ne veut surtout pas présenter un plan d'ensemble. C'est donc, ça qui fait peur aux Britanniques.
Bon, Barnier, évidemment, a pu en parler aussi parce qu'il est maintenant dans une position moins visible.
Moins exposée,
Ouais. Effectivement, et il a sans doute dit ce qu'il pensait. Je pense que ces mots ont plu aux Britanniques. D'ailleurs, cet article s'adressait aux Britanniques, puisque c'est la presse britannique. Mais je pense que ça a fait un peu grincer des dents.
J'ai une idée, Annalisa.
Vas-y.
On va l'inviter, Michel Barnier, dans l'Ordre du Monde.
Oh, j'adorerais.
Ouais.
Ah, j'adore.
Allez, on fait ça pour la rentrée, on vous promet, on lance une invitation pour Michel Barnier. Allez.
Et on lui posera cette question, il faut qu'on se la note, hein, parce que d'ici là...
Oui, t'inquiète pas, là.
Ok.
Je sais qu'il y a une canicule qui nous fait fondre le cerveau, mais ouais, t'as raison, on va la noter. Sinon, on va oublier.
Et donc, les Britanniques, entre-temps, commencent à réfléchir, est-ce qu'on revient, comment on revient, est-ce qu'on fait ce Briturn, cette Bréunion, ce Brigret, hein. Et en même temps, il faudrait aussi qu'ils s'occupent de leurs problèmes nationaux, parce qu'ils en ont pas mal. On a vu cette semaine, Keir Starmer, en début de semaine, a été obligé de démissionner.
C'est ça. Et Andy Burnham, donc, qui devrait être le prochain locataire du 10 Downing Street, hein, puisqu'il a démissionné suite à la victoire d'Andy Burnham, The King of North, le baptise maintenant, le roi du Nord, qui a été pendant des années le maire de Manchester, de Game of Thrones exactement. Et en fait, moi, j'avais envie de te parler de plusieurs épisodes que j'ai un peu découvert parce que je le connaissais pas bien, Andy Burnham, mais qui en disent un peu long sur sa personnalité. Déjà, j'ai découvert que c'est pendant le Covid qu'Andy Burnham a vraiment étoffé sa stature au niveau national. Il s'est posé comme l'élu qui s'est dressé à l'époque contre Boris Johnson. Ça faisait plusieurs années qu'il était maire du Grand Manchester. Et en octobre 2020, il y a Londres qui veut imposer un confinement vraiment hardcore à ce Grand Manchester. On ferme tout et tout le monde arrête de bosser. Et à l'époque, Andy Burnham est le seul qui va oser, au niveau des élus locaux, se dresser contre Boris Johnson. Il va enchaîner les conférences de presse publiques, il va aller dans la rue avec ses masques, et il va dire on ne peut pas vivre avec les deux tiers de son salaire. Il sera toujours vêtu d'une veste bleu marine à l'époque, d'inspiration prolétarienne, et en fait ça va en faire quelque part une petite star du peuple contre Boris Johnson et contre Londres. Et à l'époque, je suis tombé sur un article et une enquête passionnante de l'édition britannique de Vogue, qui pendant ce Covid va faire un portrait dithyrambique d'Andy Burnham, et il le titre « Soudain, inexplicablement, nous sommes tous sous le charme d'Andy Burnham hein, ». Vogue. La photo le montre, donc celui qui, avec ses habits de un peu prolétarien, le montre côté père de famille, assez beau gosse, l'air déterminé. Le magazine dit que Burnham est devenu la voix du peuple. Il dit, Vogue, que Burnham a même un statut improbable de sexe symbole.
Excuse-moi, Andy Burnham, un sexe symbole.
Alors après, le mot improbable de Vogue est pas très fair et un peu plus dur, mais on voit toutes ces photos de lui avec ses chemises froissées, ses Adidas gazelles, l'absence de costume impeccable, hein, pour façonner son image anti-Westminster et renforcer l'image homme du peuple.
C'est vrai qu'il a le charme de ses convictions. C'est
voilà, le charme de ses convictions. Et pareil, dans cet article de Vogue, on peut lire que, je te cite, hein, « Depuis Kit Harington et son chignon dans Game of Thrones, aucun candidat aussi emblématique au poste de King of Thrones n'avait émergé. Hein. » Ça, c'était une citation de cet article.
La folie Andy Burnham.
Folie Andy Burnham, surtout qu'il va gagner son bras de fer contre Boris Johnson et il va récupérer 60 millions de livres pour compenser les salaires des habitants de Manchester les plus défavorisés.
Donc, avec le Covid.
Voilà, et là, ça lui a donné vraiment une stature nationale à l'époque.
Et donc, tu parlais de son costume bleu, de son côté très... en fait, c'est un travail pur jus, finalement. On revient aux bases du travaillisme.
C'est ça, on revient aux bases du travaillisme. Et Andy Burnham, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est un peu... C'est un politique un peu caméléon. Il a eu un parcours vraiment de caméléon au sein du parti travailliste. Il a travaillé pendant sa carrière avec Tony Blair, avec Gordon Brown. Il a même tenté de composer avec la famille de Jeremy Corbyn. Et tu connais bien ces trois familles, ces trois courants qui sont souvent vraiment ennemis au sein du même parti. Et d'ailleurs, je suis tombé sur une blague qui circule en ce moment dans les milieux politiques et qui est rapportée par The Sun. Oui, je vais te faire une blague locale britannique. T'es prête ? Je te la fais, cette blague. Un blairiste, un browniste et un corbiniste entrent dans un pub et le barman leur demande « Qu'est-ce que vous buvez, Andy ?»
Bon,
voilà. Donc, mais ça montre bien, c'est une blague pour montrer le côté caméléon d'un homme politique qui s'est fondu dans trois courants différents. Voilà, en tout cas, ça montre qu'Andy Burnham ne se laisse pas enfermer dans des cases. Il raconte qu'un jour, quand il était maire de Manchester, il part avec son père pour assister à un match de son équipe favorite, Everton de Liverpool, contre Manchester City. Voilà, les deux frères ennemis. Sur place, les supporters de Manchester l'ont traité de Scouser. Ce sont les gars de Liverpool. Ouais. Et en même temps, ceux d'Everton le qualifiaient de mancunien. Et ça montre bien aussi ce Andy Burnham qui est né, qui a grandi dans un village entre Liverpool et Manchester. Et son cœur bat pour les deux villes. Et ça, en fait, aujourd'hui, politiquement, ils l'aiment pour ça aussi, les Britanniques.
Ça doit être pas facile d'assumer cette double identité quand il y a un match de foot entre Everton, Liverpool et Manchester. Tu parlais cette semaine d'un moment qui a fait sa construction politique, c'est la catastrophe de Hillsborough.
Ouais. Lui, justement, qui est aussi un fan de foot, le 15 avril 89, un mouvement de foule qui provoque la mort de 97 supporters de Liverpool. Et en fait, la version officielle de cette catastrophe, elle va jeter pendant des années la responsabilité sur les supporters. Et en fait, il va en faire vraiment un combat juridique et politique pendant toute sa carrière politique, Andy Burnham.
Mais en disant quoi, que les supporters...
Lui qui est né à Liverpool...
Mouvement de foule,
Oui, en disant qu'en fait, les supporters, ce n'était pas de leur responsabilité, cette catastrophe, c'était la responsabilité des pouvoirs publics qui n'avaient pas su gérer un environnement qui, mieux géré, aurait pu éviter ce drame. Et il en a fait un combat au cœur de son parcours politique. Il a défendu les familles de victimes pendant des décennies. Et ce combat, il va réussir à faire ouvrir une enquête indépendante avec un rapport qui donnera raison aux arguments qu'a porté Andy Burnham en 2012. À l'époque, la foule va l'acclamer au cri de « Andy Burnham for Prime Minister ». Ça, c'était en 2012. C'est une séquence qui lui a forgé aussi une réputation d'homme politique capable de s'accrocher à un dossier, être le seul et de ne jamais lâcher une cause.
Et 15 ans après, il va peut-être y arriver, hein, arriver à être Prime Minister.
Voilà.
Mais avant, il y a Manchester parce qu'il a beaucoup changé le visage de cette ville.
Oui, en fait, il y a un courant.
Plus grande ville.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, tu as une école de politique économique qu'on appelle le Manchesterism, mais qui existait depuis déjà 30 ans. Donc, c'est un courant qui était en cours, mais lui, il l'a incarné, il l'a accéléré. L'idée, c'est de beaucoup moins dépendre de Londres, de défendre une décentralisation hyper forte, de faire un pragmatisme territorial. Et sur place, son héritage le plus visible, ce sont les bus jaunes. C'est B-Network. En fait, il a totalement réorganisé tout le système de connexion ferroviaire et de transport dans le grand Manchester. Et ça, pareil, aujourd'hui, il porte en bandoulière ce courant du Manchesterism et c'est cette recette qui a marché Manchester qu'il veut aujourd'hui essayer d'appliquer au niveau national s'il accède au 10 Downing Street.
Bon, tu me disais que qu'il est un sexe symbole. Peut-être que pour me convaincre, tu peux me donner quelques éléments de plus sur son. Est-ce qu'il
okay. Andy Burnham, alors, c'est foot. Aussi c'est aussi un fan de musique et tu vois, je vais
une grande ville.
Ben voilà. Justement, on parlait des bus, des réseaux de transport. J'aimerais te faire écouter une voix. Dis-moi si tu la reconnais.
The next stop is the Etihad Campus. The home of the champions of England and the champions of Europe. Come on, City.
Oh, cet accent.
Est-ce que t'as une idée?
Oasis.
Ah, bravo, bingo. Voilà, bah forcément.
La journée des quiz.
On sait que Manchester, c'est aussi une mecque musicale. Et là, t'entends en fait Liam Gallagher, qui est le chanteur charismatique d'Oasis, qui dit prochain arrêt Etihad Campus, le stade d'Etihad de Manchester de foot, la maison des champions d'Angleterre et des champions d'Europe, come on City, allez City. Et en fait, Andy Burnham a convaincu Liam Gallagher de prêter sa voix sur plusieurs stations. Du tramway de Manchester. On sait que Manchester, c'est la ville, donc bien sûr, d'Oasis, de Joy Division, The Smiths, The Verve, à laquelle Burnham voue un véritable culte. Lui-même joue beaucoup de guitare, il mixe aussi de temps en temps, il aime les platines. La musique fait partie intégrante de son image. Il y a une conseillère de Burnham actuelle qui a créé un festival de musique assez réputé là-bas qui s'appelle Beyond the Music, qui raconte que le plus grand atout d'Andy, dit-elle, c'est sa capacité à comprendre que le soft power dont fait partie la musique est aussi important que les politiques officielles. Donc il l'intègre, il l'assume, il en joue, que ce soit dans sa tenue vestimentaire ou dans la musique, mais en même temps, voilà, ça fait partie de son engagement assumé.
C'est vrai que, surtout dans une ville comme Manchester, moi j'ai été... Ah, il était déjà maire, oui, en 2019, et c'est vrai que tu sens que ça, le foot et la musique, ce ne sont pas juste
Du marketing politique, quoi.
Non,
c'est pas juste du marketing politique.
Tu sens que la ville vibre avec ses clubs de foot, que la ville vibre avec, avec ses musiciens. Tu sens que c'est vraiment, ça fait partie de l'identité, autant que pour la France, tu peux penser à la gastronomie.
Et c'est pour ça que je voulais te prendre ces quelques petites anecdotes de sa vie ou épisodes, etc. Parce que c'est quelqu'un que je découvre aussi et qui, comme ça, alors après, peut-être que je me trompe, mais les premières impressions me donnent le sentiment d'un homme politique qui, effectivement, est une bête politique, hein, et sait jouer sur les codes, mais. Qui a des valeurs et est un homme de conviction, d'engagement, qui est prêt à les assumer. Il me donne ce sentiment-là.
On va devoir le suivre et on sortira le replay de toi qui dit ça si jamais... si jamais ça se passe mal avec Andy Burnham. Non, je plaisante.
Si je me plante, tu peux le ressortir aussi. Hein.
Enfin, bien sûr, évidemment.
Bon, on termine avec nos radars. Tu suis quoi, toi, cette semaine, Annalisa?
Oui. Moi, je pars aux États-Unis et je suis un autre homme politique qui est un peu un sex symbol. Lui aussi a un grand attrait politique. C'est Zoran Mamdani. C'est le nouveau maire de New York qui a été élu il y a quelques mois, très jeune, démocrate.
Bête noire de Donald Trump, un peu.
Exactement, bête noire.
Ultra-libéral.
Très, très à gauche. Très à gauche pour les États-Unis, bien sûr. Et je le suis parce que cette semaine, il y a eu des primaires démocrates à New York. Et trois candidats soutenus par Mamdani ont remporté ces primaires. Alors, c'est une victoire écrasante. Et en plus, c'est une victoire contre les candidats de l'establishment, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, contre les candidats traditionnels, on va dire, du Parti démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous dit que Zoran Mamdani, qui était dans un courant minoritaire, commence à prendre de plus en plus de place au sein du Parti démocrate. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un personnage comme ça aussi fort qui ressort, ça commence petit à petit à s'imposer. Et donc, à suivre dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer? La presse américaine parlait de Kingmaker. Donc, il est de plus en plus...
Faiseur de roi
dans le Parti démocrate. À suivre, à voir l'ascendant qu'il va prendre ces prochaines semaines sur son parti.
Ok, le courant Zoran.
Le courant Zoran, okay. Exactement.
On va suivre
un autre qui a fait une campagne électorale très très maligne et qui a très bien marché. Et toi, tu nous emmènes où la semaine prochaine?
Moi, en fait, je vais suivre les mots que vont choisir de prononcer les commissaires européens et le ministre chinois du commerce, Wang Wentao, qui se rend justement à Bruxelles la semaine prochaine. Je vais vais guetter chacun de leurs mots parce qu'on sait que l'Europe cherche en ce moment à muscler ses outils pour lutter contre l'agressivité commerciale chinoise, que là on sort d'un Davos de l'été en Chine avec une Europe qui montre ses muscles aussi et qui compte bien coûte que coûte exporter tous ses produits vers les 450 millions de consommateurs européens. Jusqu'où peut aller ce bras de fer? Est-ce qu'on va trouver un compromis diplomatique ou est-ce que au contraire ça va se tendre? On aura peut-être des indications en fonction de ce qui sera prononcé la semaine prochaine. À suivre.
Moi j'ai bien peur qu'on va être encore très divisé en tant qu'Européens et qu'on va avoir du mal à s'intégrer.
Ah oui. Bah oui, parce qu'on sait que Pedro Sanchez, l'Espagnol, passe de plus en plus de temps en Chine, que les Allemands sont très exposés à la Chine, très compliqué de se coordonner. Oui. Ça va être encore un test d'unité européenne aussi, t'as raison.
Donc tout ça à surveiller. Nous on a terminé pour cette semaine et la semaine prochaine vous retrouvez Mathieu tout seul, vous entendrez peut-être les cigales parce qu'il sera aux rencontres économiques de Aix-en-Provence. Tu seras avec un invité ?
Oui, je serai avec un des directeurs d'un des think tanks les plus influents aux États-Unis à Washington. Il s'appelle Charles Litchfield. Il dirige le centre de géoéconomie là-bas à Washington. Et en fait, c'est quelqu'un qui a vraiment ses entrées et à la Maison-Blanche et à la Commission européenne. Donc ça va être intéressant de discuter ensemble pour prendre le pouls de la relation transatlantique.
Ok, bon bah j'écouterai avec plaisir. Je serai donc spectatrice.
Oh, mais je suis super déçu de le faire sans toi, mais on se retrouve après dans deux semaines.
Paris, gardez le bateau, sinon comment on fait ?
T'as raison.
Bon, nous on se retrouve donc dans la semaine prochaine pour l'épisode spécial depuis Aix-en-Provence.
Et dans deux semaines ensemble pour
la dernière de la saison.
Pour la dernière, ah ouais,
déjà,
ça va être bien.
Mais, oui. Mais entre-temps, évidemment, vous n'hésitez pas déjà à poser vos questions à Mathieu si vous en avez pour qu'il les prenne en compte dans son épisode de la semaine prochaine. Et entre-temps, vous n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à nos chaînes, à nous suivre. Vous nous trouvez partout en podcast sur toutes les principales plateformes Spotify, Apple Podcast. Et vous nous trouvez évidemment sur le site de BFM et sur l'appli BFM.
Allez, bon courage avec cette canicule, vive la géopolitique et passez une très bonne semaine à tous.
À la semaine prochaine.
Au revoir.